Chapitre 3. Mais il s'agit bien d'amour aujourd'hui. Armand est malade, gravement malade. Armand est en péril de mort. Cela lui a pris 6 semaines après son retour à Paris. Madame Bernard se rappelle parfaitement que depuis quelques jours il avait l'air inquiet, excité. Il a commencé par se plaindre de migraines, par porter à chaque instant sa main à son front, comme s'il lui devenait par trop pesant. « Mais qu'est-ce que tu as donc ?» lui disait sa mère effrayée. « Tu as trop de couleurs, j'aime pas ça, c'est pas naturel. » Mais il répondait insoucieusement. « Bah, cela passera. » Secouait sa belle chevelure comme pour chasser le mal, et malgré les observations réitérées de sa mère, continuait à sortir le soir pour aller retrouver cette Henriette, oh, cette fille, et cela par la boue humide, par le temps pourri de décembre. Enfin, l'autre matin, n'était-il pas encore rentré à plus de minuit, le malheureux enfant, il a sonné Louis, le valet de chambre, dès le petit jour, et lui a dit, en parlant avec effort, « J'ai passé une mauvaise nuit. Je ne suis pas bien, décidément. » « Allez chercher ma mère, j'ai soif, j'ai la fièvre. Oh, comme ma tête me fait mal !» Aussitôt prévenue, Madame Bernard a passé un peignoir à la hâte et est accourue auprès de son fils. Il avait le visage très rouge, le front brûlant, et il grelottait sous les couvertures, claquant des dents, secoué de continuels frissons. La fièvre typhoïde, si c'était la fièvre typhoïde. En ce moment, elle est à Paris, à l'état épidémique. Madame Bernard a lu cela dans les journaux, elle s'en souvient parfaitement maintenant. Et l'affreuse maladie s'attaque surtout aux très jeunes gens, et particulièrement redoutable pour les personnes affaiblies. Si c'était cela, Seigneur mon Dieu, si c'était cela! Madame Bernard se pend aux sonnettes, la maison est sans dessus-dessous. « Léontine !» écrit-elle à la vieille femme de charge qui arrive en boutonnant son corsage. « Léontine, vite, sautez dans un fiacre, allez chercher le docteur Forly, qui vienne tout de suite, tout de suite !» Et elle reste là, impuissante, ne sachant que faire, regardant son fils qui se cache la tête dans l'oreiller et pousse de gros soupirs de souffrance. Enfin, au bout d'un quart d'heure, Léontine reparaît, suivie du médecin de la famille, qu'elle a eu la chance d'attraper juste au moment où il montait en voiture pour aller à son hôpital. C'est un vieux praticien, aux façons méthodiques et un peu surannées, qui écrit solennellement en tête de ses ordonnances « Je conseille » et qui ne manque pas de terminer ses formules par les 3 lettres kabbalistiques « M.S.A. »« Misce secundum artem ». Mais il est fameux pour la sûreté de son diagnostic, pour son coup d'œil médical. Il s'assied auprès du lit en ôtant ses gants avec lenteur, tâte le pouls du malade, l'examine, l'interroge, puis il se lève en déclarant d'une voix cordiale « Oh, j'en ai vu bien d'autres, nous viendrons bien à bout de ça !» Mais sa bonne humeur sonne faux. Et dès qu'il a tourné la tête, Madame Bernard a vu qu'il fronçait le sourcil. Ah, le temps, elle l'entraîne dans la chambre voisine. Oh, l'horreur! C'est bien ce qu'elle redoutait. C'est la fièvre typhoïde. Le vieux et prudent médecin est forcé de l'avouer à Madame Bernard dans l'intérêt du malade, pour qu'on ne néglige aucune précaution. Et la maladie, ajoute-t-il, se déclare avec une extrême violence. Puis il rédige ses prescriptions et promet de revenir dans quelques heures. Et depuis 10 jours, 10 épouvantables et moteurs jours, la fièvre augmente, le malade s'affaiblit. Et le petit thermomètre que sa mère lui met d'heure en heure sous l'aisselle, oh le pauvre enfant, le moindre mouvement l'épuise. L'impitoyable thermomètre marque toujours d'effrayants degrés de température. 39. 40, 41, et au-delà ce sera la mort. Mais ces médecins sont donc tous des ânes battés, ils ne peuvent donc rien. jusqu'à ce docteur Forley en qui Madame Bernard avait toute confiance. S'il se trompait pourtant, s'il manquait de prudence ou d'énergie, il revient à présent plusieurs fois par jour, le docteur, il a toujours l'air plus sombre, et il ordonne son éternel sulfate de quinine. Des doses énormes. Si c'était trop ou pas assez, ce traitement par les bains glacés dont on parle tant, qui a fait des miracles à ce qu'il paraît, mais pourquoi le docteur Forley n'en essaie-t-il pas? Madame Bernard veut voir d'autres médecins, appeler au secours les célébrités, les grands guérisseurs. Il en vient trois à la fois, enveloppés de lourdes pelisses dans leur coupé confortable. Et la mère en détresse veut voir luire l'éclair du génie dans leurs yeux fatigués, sur leurs faces mordes de savants. Elle veut prendre confiance dans la grosse rosette de leur boutonnière, dans leur titre ronflant de professeurs et d'académiciens, dans leur nom connu de toute la France. Mais dès qu'ils sont en présence du malade, elle épie et découvre sur leur visage cette légère moue, cette grimace presque imperceptible qu'elle connaît chez le docteur Forley et qui lui donne froid dans les os. Les médecins passent gravement au salon pour se consulter entre eux, et derrière la porte fermée, elle écoute, raide d'angoisse, le murmure confus de leur voix. Sainte Vierge, si tout à l'heure il pouvait lui affirmer qu'Armand n'est pas en si grand péril, qu'il réponde de sa vie. Ah, quelle joie! Ah, mourir! Mais non. Ils reparaissent avec leur air de sphinx, leur physionomie murée. Elle n'obtient d'eux que des phrases banales. Il faut attendre. Une réaction favorable peut se produire. Et quelques froides paroles d'espoir. Misère de misère, est-ce que son fils va mourir? Car il va plus mal, elle s'en aperçoit bien. Les accès de délire sont continuels. Dans cette chambre surchauffée et puant la pharmacie, Madame Bernard passe des journées de 24 heures, tenue toujours éveillée par l'épouvante, au chevet de ce lit qui semble exhaler une vapeur de fièvre et dans lequel le malade s'agite et gémit faiblement. Les nuits surtout sont terribles. Couchée dans son fauteuil par la fatigue et la douleur, la pauvre femme tâche quelquefois de prier. Car tout d'abord, devant son enfant en danger, la Corse avait retrouvé au fond d'elle-même toutes les dévotions italiennes de son enfance. À Saint-Thomas d'Aquin, on dit chaque jour plusieurs messes pour Armand, et Léontine court sans cesse à travers Paris pour faire brûler des cierges à tous les saints spéciaux, à tous les hôtels privilégiés. Mais vœux ni neuvaines n'ont donné aucun résultat, et Madame Bernard, qui dans ce moment même roule distraitement entre ses doigts un chapelet béni par le pape, a le cœur soulevé de révolte et de blasphème. Quelquefois, quand le malade s'apaise, c'est dans la chambre funèbre, à peine éclairée par la lueur pâle de la veilleuse, un silence noir, épais, profond. Seule la vieille pendule de Saxe sur la cheminée fait entendre sa palpitation rapide. Tic-tac, 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 tic-tac. Et machinalement, Madame Bernard l'écoute. Et comme le temps va vite, comme elle court les secondes haletantes, comme elle se précipite et vers quel but inconnu. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais quelle est donc l'heure fatale qu'elles ont tant de hâte d'atteindre? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qui donc les attend au rendez-vous vers lequel elles galopent de ce train enragé? Si c'était la mort! Mais brusquement, Madame Bernard s'est levée. Son fils vient de remuer un peu. Il a fait entendre une plainte légère. Elle se penche sur lui, anxieuse, avec un geste qui le couve. « Comment te sens-tu, mon petit Armand? As-tu soif, mon mignon? Que veux-tu? Dis, je t'en prie. » Le malade, au maigre visage, à la barbe sèche, aux narines pincées, ouvre alors ses yeux qui regardent sans voir, ses yeux démesurément agrandis par la fièvre, et du fond de son délire, dans un murmure à peine distinct, dans une sorte de soupir où il y a encore de la tendresse, il exhale un nom de femme. Henriette. Madame Bernard étouffe un cri de fureur. Henriette. Il pense encore à cette Henriette. Il la revoit dans ses cauchemars, il l'appelle dans son agonie. Mais s'il meurt, c'est elle qui en sera cause. Oui, c'est elle, la débaucheuse, la libertine, qui s'est emparée de ce misérable enfant par les sens, qui l'a mis en folie, épuisé d'amour, et qui l'a livré sans force, éreinté, vidé, à la peste qui passait. Les médecins l'ont déclaré, la maladie a trouvé chez Armand un terrain trop favorable. Il était anémié, exsangue, quand il a pris cette fièvre. Sans cela, il serait en convalescence, guéri, sauvé. Et elle, la mère, il faut qu'elle entende son fils moribond, appelé cette Henriette, mais n'est-ce pas faire bouillir le sang? Oh, la fille maudite, oh, la chienne qui a dû tuer son enfant! Cependant, les amis de la famille Bernard des Vignes ont eu connaissance de la maladie d'Armand. Un groupe important de la société parisienne, le monde du Second Empire, où Madame Bernard est fort estimée et respectée, s'est ému de cette triste nouvelle et s'empresse de faire parvenir ses témoignages de sympathie. À chaque instant, des voitures s'arrêtent devant la maison du quai Malaquais. Le valet de pied saute lestement du siège, entre chez la concierge, demande des nouvelles et dépose une carte. La belle maison datant du siècle dernier, où demeurent les Bernard, n'est pas pourvue, comme c'est la mode aujourd'hui, d'une espèce de régisseur insolent qui lit le journal et se chauffe les tibias dans un salon à vitrine où triomphe le chêne sculpté du faubourg Saint-Antoine et les turqueries au rabais du bon marché. Elle se contente d'une loge, du vieux jeu, où se bombe, au fond d'une alcôve, l'édredon rouge d'un lit conjugal, et que parfume deux fois par jour des préparations culinaires dont l'oignon est certainement la base. La concierge, la mère Renouf, est en parfaite harmonie avec l'apparence intime et patriarcale de son habitation. Cette grosse maman, sur le retour de l'âge, dont le mari, garçon de bureau dans un ministère, cire les escaliers tous les samedis, est presque toujours seule à garder la maison, et pour charmer l'ennui de ses fonctions sédentaires, elle élève et soigne avec amour dans une cage accrochée le jour près de la porte de la loge et la nuit au-dessus du poêle, plusieurs dynasties gazouillantes de canaries et de chardonnerets. Aux personnes, maîtres ou domestiques, qui viennent s'informer auprès d'elle de l'état d'Armand Bernard, la mère Renouf ne se borne pas à communiquer le bulletin médical, ainsi que le feraient, avec une réserve diplomatique, les hautains fonctionnaires, les portiers gentilshommes de l'avenue de l'Opéra ou du boulevard Haussmann. Mais, bavarde et sensible, elle corrige la sécheresse de ce document par quelques réflexions de son cru et s'attendrit, en style de concierge, sur les anxiétés maternelles de Madame Bernard et sur les souffrances du jeune et intéressant malade. C'est dans la loge de la mère Renouf que, tous les soirs, en sortant de l'atelier, Henriette vient chercher des nouvelles d'Armand. La dernière fois qu'elle l'a vu, il était déjà très souffrant. Il l'a laissé fort préoccupé en promettant de lui écrire dès le lendemain. Mais un jour a passé, puis un autre, sans qu'elle ait vu arriver la lettre attendue. Cruellement inquiète, elle a pris alors à deux mains son courage et elle a franchi de nouveau, toute tremblante, le seuil de cette maison qui lui fait si grand peur, de cette maison où sont l'homme qu'elle aime et la femme qui la hait. Henriette n'est pas venue là depuis plus de 6 mois. Elle espère que personne ne la reconnaîtra. Mais la mère Renouf a meilleure mémoire. Et dès qu'elle aperçoit l'ouvrière, « Ah, c'est vous, mademoiselle Henriette, lui dit-elle, comme vous êtes devenue rare. Vous venez sans doute savoir comment va le fils de madame Bernard. »« Oh, pas bien du tout, le pauvre petit. Il paraît que c'est la fièvre typhoïde, décidément. Eh bien, qu'est-ce que vous avez donc? Vous êtes toute pâle. Oh, mais mon Dieu, elle se trouve mal. Henriette chancelle, en effet, frappée au cœur. La mère Renouf la fait vite asseoir dans sa bergère. La large bergère où elle roupille le soir auprès de son cordon. Puis elle cherche son flacon d'eau de mélisse, ne le trouve pas, commence à perdre la tête. Mais la grisette qui défaille laisse alors tomber son front sur l'épaule de la brave femme, et sans force pour contenir sa douleur, elle s'écrie en fondant en larmes: Armand, mon pauvre Armand! Ah, la mère Renouf n'a pas besoin de plus ample confidence. Un moment stupéfaite, elle a tout compris à présent. Mais elle a bon cœur, la vieille. Elle a sans doute aimé tout comme une autre dans son beau temps. Ça lui retourne les sangs de voir cette belle jeunesse qui a tant de chagrin, et elle fait de son mieux pour lui redonner un peu de courage. Comment, mademoiselle Henriette, monsieur Armand est votre bon ami? En voilà une sévère. Oh, j'ai bien peur, ma pauvre petite, que vous n'ayez fait là une grosse folie. Mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Et d'abord, faut pas vous désespérer. Il est malade, c'est vrai, mais c'est jeune. Ça a du ressort. Il guérira, je le parierai. Voyons, remettez-vous. Oui, je sais bien. Ces douleurs-là, ça fait beaucoup de mal quand on a un sentiment. J'ai passé par là. J'ai pas toujours été une vieille ridicule qui élève des serins. Mais comment vous pleurez toujours? Eh bien, ma foi, laissez couler l'eau, après tout. Il n'y a que cela qui soulage, ma pauvre enfant. Et la grosse maman, tout attendrie de voir pleurer cette jeune fille et bien près d'en faire autant, attira sur sa large poitrine la jolie tête désolée et se mit à la bercer avec douceur. Mère Renouf, vous n'étiez qu'une simple portière, et encore une portière comme on n'en tolérerait pas dans une maison qui se respecte. Votre loge empestait la cuisine à l'oignon et l'odeur chaude des cages d'oiseaux. Vous n'étiez qu'une vieille femme, très commune et très vulgaire, et le nez compatissant que vous inclinez vers Henriette était tout barbouillé de tabac. Soyez pourtant bénie, mère Renouf. Car sous votre camisole d'indienne jaune à petites fleurs, il y avait quelque chose de plus rare qu'on ne croit généralement, un cœur indulgent et bon. Et grâce à vous, cet enfant du peuple, cette pauvre amoureuse, dont la faute était si pardonnable et à qui la dureté des lois sociales refusait la consolation d'embrasser son amant à l'agonie, put du moins reposer un instant son front lourd de douleur sur un sein de femme et y sentir palpiter un peu de maternelle pitié. Tous les soirs, Henriette vint donc prendre des nouvelles d'Armand chez la mère Renouf. Elle y venait après avoir fait sa journée. Car c'est ainsi pour les pauvres. On a beau avoir son cœur plein de chagrin, il faut quand même travailler, gagner sa vie. Par la boue et le brouillard de la nuit d'hiver, elle se hâtait sous les arcades de la rue de Rivoli, traversait le désert du Carrousel, et ceux qui voyaient dans la lumière crue de l'électricité filer cette grisette aux pieds vifs et à la jupe troussée pouvaient s'imaginer, hélas, qu'elle courait un rendez-vous galant. Mais dès qu'elle arrivait sur le pont des Arts, Henriette ralentissait le pas. Là-bas, sur le quai, à une fenêtre qu'elle connaissait bien, elle distinguait de loin une faible lueur. C'était là que son bien-aimé se débattait contre la mort. Alors elle était envahie d'une lâcheté subite et s'attardait pour reculer le moment où elle entrerait chez la mère Renouf. Les dernières nouvelles étaient si effrayantes. Fièvre intense, le malade est très agité. Qu'allait-elle encore apprendre de sinistre, de désespérant? Et cela durait depuis 10 jours, pendant lesquels la pauvre fille avait vécu comme enveloppée d'une atmosphère d'épouvante. Cependant, une des ouvrières de Paméla, qui jadis a eu la fièvre typhoïde, et qu'Henriette a interrogée sur la terrible maladie, Tu as dit que le danger de mort après le 9e jour est, sinon tout à fait conjuré, du moins beaucoup moindre. C'est un préjugé populaire, mais l'espoir d'Henriette, l'accepte passionnément. Elle veut croire, elle croit que la jeunesse d'Armand sortira victorieuse de la lutte, qu'il guérira, qu'il doit aller mieux déjà. Ce soir, c'est d'un pas plus assuré qu'elle court au quai Malaquais. C'est presque avec confiance qu'elle tourne le bec de canne de la loge. Grand Dieu! Sur la table ronde, à côté des cartes de visite amoncelées, elle ne voit pas cette feuille de papier, ce bulletin médical dont la vue seule la remplissait de terreur et sur lequel elle se jetait cependant avec une telle avidité. La mère Renouf, l'air navré, se lève de sa vieille bergère, baisse la tête, laisse tomber ses bras. Ah, c'est fini. Armand est mort. Armand est mort. Oui, un doigt invisible l'a désigné entre tous dans la foule humaine. Une haleine mystérieuse a soufflé sur lui. Et cet esprit lumineux, ce cœur brûlant d'amour, ce regard où flottait l'ombre de tant de beaux et de beaux rêves, ce voyer de jeunesse, cette flamme d'espérance, tout cela s'est éteint brusquement, comme tombe et s'éteint une étoile dans le sombre azur d'une nuit de septembre. Armand est mort. Dans 2 jours, ses jeunes amis des écoles seront réunis autour de sa tombe ouverte. Théodore Verdier, sincèrement poète cette fois-là, lira quelques strophes émues, un touchant adieu. Ensuite, les étudiants se disperseront à travers les allées humides et défeuillées du cimetière, en s'abandonnant à la fugitive tristesse dont est capable la jeunesse. Puis ils retourneront à leurs travaux ou à leurs plaisirs, et le souvenir du camarade disparu s'effacera peu à peu de leur mémoire. Armand est mort. Près des Invalides, on va suspendre un écriteau jaune à la porte d'une maison meublée. Dans peu de temps, la chambre de l'officier supérieur, rendue à sa destination normale, sera encombrée dans tous les coins de sabres d'ordonnance et de paires de bottes éperonnées. Et la glace trouble devant laquelle Henriette remettait son chapeau avant de partir, tandis qu'Armand la surprenait encore d'un dernier baiser sur la nuque, la glace verte et ridée ne gardera pas une trace de ces deux charmants visages. Armand est mort. Au-delà des mers et des continents, là-bas en Extrême-Orient, le général de Vorice, dans sa maison de bambou, recevra, au bout de quelques semaines, le billet de faire-part, maculé par les timbres de la poste et jauni par le chlore des lazarets. Et il songera, plein d'une amère mélancolie, que la seule femme qu'il ait aimée l'a sacrifiée à cet enfant qui ne devait pas vivre. Armand est mort. Près de l'oreiller où repose sa tête lourde et pâle, qui a retrouvé pour quelques heures après le dernier soupir une jeune et sereine beauté, sa mère, entourée de femmes en deuil, sa mère, effroyable à voir, se tord dans une douleur tragique et pousse des cris de bête qu'on égorge, des aboiements d'écume. Tandis qu'en bas, dans la loge, sur le lit d'où là-haut on a ôté les dredons rouges, Henriette est étendue, le corsage ouvert, la figure molle de larmes, et s'évanouit pour la deuxième fois dans les bras de la bonne mère Renouf, qui lui mouille les tempes avec du vinaigre et lui parle en chantonnant comme à un enfant malade. Après la mort d'Armand, ce fut entre tous ceux qui connaissaient Madame Bernard des Vignes une véritable conspiration de la pitié pour ne pas laisser la malheureuse mère seule avec son désespoir, pour l'entourer et la distraire. Elle recueillit alors le bénéfice de sa noble existence, toute d'honneur et de vertu, trouva des amitiés là où elle ne croyait avoir que des relations mondaines, découvrit des sentiments sincères en des femmes qu'elle avait jugées jusqu'alors très superficielles. La solitude où elle avait d'abord voulu s'enfermer, obéissant à un premier et farouche instinct, fut doucement violé par de touchantes sympathies. On sut lui parler de sa douleur sans lui faire du mal, y toucher d'une main légère. Moins fière depuis qu'elle était si malheureuse, elle apprécia la douceur de se plaindre et d'être plainte, de sentir des mains amicales se poser sur les siennes, d'abandonner son front sur l'épaule d'une confidente émue. On ne pouvait la consoler, mais on la calma du moins. On lui rendit la vie moins insupportable. Elle n'avait pas voulu qu'Armand fût transporté en province et enterré auprès de son père. C'était à Paris qu'elle avait encore quelques parents. C'était à Paris que, pendant la maladie de son fils, elle avait senti circuler autour d'elle un courant d'estime et d'affection. C'était donc là qu'elle vivrait dorénavant, puisqu'il fallait vivre. Elle ne voulait pas être éloignée de la sépulture de son cher enfant. Elle lui fit construire un tombeau très simple au cimetière Montparnasse, mais elle resta pendant assez longtemps tellement malade de chagrin et de fatigue qu'elle ne put surveiller les travaux en personne, et quand, 6 semaines après le décès d'Armand, son cercueil fut retiré du caveau provisoire et déposé dans sa demeure définitive, Madame Bernard ne trouva pas encore la force et le courage nécessaires pour assister à la lugubre cérémonie. Mais le dimanche suivant, se trouvant un peu moins faible, elle voulut aller prier, pour la première fois, sur la tombe de son fils. Et après avoir entendu la messe à saint Thomas d'Aquin, elle monta dans son coupé rempli de bouquets et de couronnes et se fit conduire au cimetière. Elle avait tenu absolument à faire toute seule ce pèlerinage, s'était même opposée à ce que sa vieille Léontine l'accompagnât. Ayant pris des indications précises sur la place du monument, elle descendit de voiture, entra dans le cimetière drapé de longs voiles noirs, les mains et les bras chargés d'hommages funèbres, chercha quelque temps sa route, puis après avoir passé en revue plusieurs rangées de tombeaux, lut enfin de loin, avec quel horrible serrement de cœur, le nom d'Armand Bernard gravé dans la pierre neuve. Mais tout à coup, elle s'arrêta. Ses épaules courbées sous le poids du chagrin se redressèrent et, dans ses yeux cernés par tant de larmes, une flamme de colère s'alluma. Quelqu'un l'avait précédée. Ses fleurs n'arrivaient pas les premières. Il y avait déjà, sur la tombe d'Armand, un petit bouquet de violettes de dessous qui ne devait être là que depuis peu de temps, car les humbles fleurs étaient encore toutes fraîches dans leur collerette de lierre. Madame Bernard des Vignes n'eut pas un instant de doute. Cela venait de cette Henriette. Depuis qu'Armand était mort, la malheureuse mère avait fait tout son possible pour ne plus songer à la maîtresse de son fils. Elle ne voulait garder de lui dans son esprit qu'une pure image, ne l'évoquer que parée de son innocence et de sa chasteté d'autrefois. Les 6 derniers mois de la vie d'Armand, son commerce avec une fille indigne de lui, la lutte qu'il avait soutenue contre sa mère à cause de cette Henriette, ce goût de folie sensuelle, car ce n'était pas autre chose, évidemment. Tout cela souillait, flétrissait la mémoire de son fils, tout cela était trop pénible. Elle ne voulait plus y songer, elle y était presque parvenue. Et voilà que ce passé honteux et détestable se dressait encore devant elle. Cette misérable dont les baisers avaient peut-être été meurtriers pour Armand osait déposer des fleurs sur sa tombe. Et de quel droit, à quel titre? Parce qu'elle l'avait aimé? Est-ce que cela peut s'appeler de l'amour, les ardeurs d'une gamine au printemps? Parce qu'elle l'aimait encore, allons donc. Sensiblerie de grisette, qui n'y pensera plus dans un mois, dans 15 jours, et qui prendra un autre amoureux. Non, 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 elle ne veut pas souffrir, elle, la mère au cœur percé des 7 glaives, que ce bouquet reste à côté des siens. Sur cette pierre dont elle s'approche, débordante de sanglots et de prières, elle ne veut pas de le mal d'une coquine qui est venu là en pleurnichant à peine le cœur plein de regrets impurs, au tas d'ordures, au fumier, les fleurs obscènes. Et Madame Bernard se penche pour prendre les violettes et les jeter au loin. Mais elle n'achève pas le geste commencé. Dépouiller une tombe, mais c'est presque un sacrilège. Si son fils la voyait, hélas, cette offrande a peut-être été très douce à celui qui dort là pour toujours. Qui sait si les premières fleurs qui ont orné son sépulcre ne lui sont pas plus chères que celles apportées par sa mère en deuil? Oh, la cruelle pensée! Mais Madame Bernard se rappelle à présent qu'elle est venue là pour prier. Elle se reproche de s'abandonner dans un pareil lieu à des sentiments de rancune. Elle se met à genoux, fait le signe de la croix. Oui, l'heure a sonné de tous les pardons. Oui, en pensant à son propre fils mort, elle devrait se souvenir seulement qu'il a été pendant 20 ans sa consolation, son orgueil et sa joie. Oui, elle devrait être plus indulgente pour cette jeune fille qui, après tout, a peut-être aimé sincèrement son Armand, qui dans tous les cas ne l'a pas encore oublié puisqu'elle a posé là ses fleurs fidèles. Et quand Madame Bernard, après être restée longtemps en prière, se relève pour partir et jette au tombeau un long et dernier regard d'adieu, le bouquet d'Henriette est encore à la même place. Depuis lors, tous les dimanches, Madame Bernard revint au cimetière, et chaque fois elle put constater qu'Henriette avait apporté dès le matin son souvenir parfumé. Le temps passa. Avec les saisons, les fleurs varièrent, mais ce furent toujours celles de la flore faubourienne, celles qu'on vend dans les petites charrettes à bras le long des trottoirs. Au bouquet de violettes succédèrent les poignées de giroflées, les branches de lilas, les bottes de roses. Devant tant de constance, Madame Bernard désarmait peu à peu. Le sentiment de cette Henriette était-il donc plus fort, plus durable qu'elle n'avait cru? Pourquoi pas? Armand était si aimable, si séduisant. En s'attendrissant sur son fils mort, la mère devenait plus clémente pour celle qui l'avait aimée. Si un jour elle avait rencontré la jeune fille, peut-être se fût-elle jetée dans ses bras et l'eût-elle traitée en égale devant la douleur. Pourtant, à chaque bouquet nouveau, Madame Bernard éprouvait une sorte d'étrange dépit. Elle était toujours jalouse d'Henriette, jalouse de ses regrets, de son chagrin, et elle était encore sa rivale par les larmes. Cependant, la ligue affectueuse qui s'était formée autour de Madame Bernard continuait son œuvre. À la longue, on avait décidé à mener une existence moins cloîtrée, moins sauvage. Cédant à de patientes et gracieuses sollicitations, elle consentit à recevoir et à rendre quelques visites, à se mêler même parfois à de très étroites réunions. Il y avait déjà 1 an qu'Armand n'était plus. L'hiver était revenu. C'était des chrysanthèmes qu'Henriette apportait à présent, et Madame Bernard les trouvait souvent poudrées de neige. Un deuil comme celui de cette pauvre mère ne pouvait pas se consoler, mais il devenait, grâce au temps, moins aigu, moins âpre. Cette douleur, qui devait être éternelle, n'était plus continuelle. Oublier, oublier, c'est le secret de vivre, a dit Lamartine, dans un vers admirable qui exprime une amère vérité. Certes, Madame Bernard n'oubliait pas, mais enfin, elle vivait. Quelques semaines après la messe du bout de l'an, célébrée pour le repos de l'âme d'Armand, oh, ce jour-là, quel torturant souvenir, quelle plaie ouverte, Madame Bernard apprit que le général de Vorys était revenu du Tonkin. Il lui avait écrit, à propos de la mort d'Armand, une lettre exquise de tact et de sensibilité, puis il n'avait plus donné de ses nouvelles, et de retour à Paris, il s'était borné à déposer une carte chez Madame Bernard. Mais bientôt, celle-ci remarqua que plusieurs de ses amis prononçait très souvent devant elle le nom de M. de Vorys. Elle devina bien vite dans quelle intention. Et le général l'aimait toujours, elle le sentait, elle en était sûre. Peut-être même n'était-il revenu en France que pour se rapprocher d'elle. Il la savait seule au monde. Il devait se dire que maintenant elle voudrait peut-être l'accepter pour consolateur et pour mari, et dans le cercle dont elle était entourée, il avait sans doute discrètement converti quelques femmes à sa cause. Se remarier, recommencer sa vie. La pauvre femme ne croyait guère que ce fût possible. Pourtant, comment n'être pas touché par ce ferme et inaltérable amour, que rien n'avait pu lasser, qui avait résisté, bien que sans espoir, au temps et à l'absence. Oui, jadis, elle avait eu un tendre penchant pour M. de Vorys. Hélas, que pourrait-elle aujourd'hui lui offrir en échange de son sentiment si profond? Un cœur brisé, pas davantage. Mais c'est de débris que les nids sont faits. 39 ans. Elle est presque une vieille femme. Mais à quoi rêve-t-elle donc? Par hasard, elle se regarde dans la glace. Ah, elle a trop pleuré, ses paupières sont bien flétries. Cependant, elle ressemble encore un peu à son portrait peint par Dubuff, à son portrait quand elle avait 20 ans. Il y a dans ce miroir mieux qu'un fantôme de l'admirable Bianca Antonini, de la jeune Diane des Chasses de Compiègne. Le marbre de son teint un peu jauni. Quelques fils blancs courent dans sa profonde chevelure. Mais elle a gardé ses traits purs et fiers, son buste puissant et gracieux, ses épaules faites pour le manteau royal. « Belle encore !» soupire-t-elle avec une mélancolique douce. « Ah ! Folie, folie !» Ce jour-là, précisément, l'ancienne dame d'honneur de l'impératrice, la vieille duchesse de Friedland, excellente femme qui a témoigné dans ces derniers temps à Madame Bernard des Vignes un maternel intérêt, vient la voir et l'invite à prendre le thé chez elle en tout petit comité. « Vous trouverez là, ma chère amie, une de vos anciennes connaissances, le général de Vorys. » Accepter, ce serait pour une femme du caractère de Madame Bernard, donner un espoir au général, s'engager presque avec lui. Elle s'excuse, donne un prétexte, mais elle reste pleine de troubles. Mais pourquoi donc a-t-elle refusé? Ce mariage, qui satisferait d'ailleurs toutes les convenances, n'aurait rien que de doux et de consolant pour elle. Elle y a réfléchi, et très sérieusement. Son cœur, interrogé tout bas, plaide en faveur de M. de Vorys. Elle s'est déjà demandé « Pourquoi pas ?» Elle est sur le point de se répondre « Oui. » Mais qu'est-ce donc qui l'arrête au seuil de ce refuge où, après tant de souffrances, elle pourrait goûter un peu de tendre propos? Qu'est-ce donc qui l'a fait hésiter? Presque rien. Le petit bouquet de violettes qu'elle a encore trouvé dimanche dernier sur la tombe d'Armand. Sans doute elle a le droit de se remarier, sans être infidèle à la mémoire de son fils. M. de Vorys, dont elle connaît le cœur, respecterait, encouragerait, chez elle, le culte du souvenir. N'importe. Tant qu'Henriette apportera des fleurs au cimetière, Madame Bernard restera veuve. Dans cette rivalité de douleur et de constance, elle ne veut pas être vaincue. Mais le dimanche suivant, il n'y a sur la pierre tubulaire que les violettes de la dernière fois, toutes noires et toutes séchées. Henriette n'est pas venue renouveler son bouquet. Ah, quelle joie ironique et méchante Madame Bernard se sent au cœur. Elle l'avait bien prévu. La maîtresse d'Armand devient négligente, elle se console. Allons, allons. Il n'y a que les mères qui n'oublient pas. Pourtant, prenons garde de porter un jugement téméraire. Henriette peut avoir eu un empêchement, être absente, indisposée. Il convient d'attendre. Mais un, deux, trois dimanches se succèdent et rien, rien, toujours rien. Alors, c'est un triomphe pour Madame Bernard. Oui, 100 fois oui, son premier mouvement était le bon. Elle était légitime, sa répugnance devant ces fleurs impures. Armand, Armand, mais ta mère seule t'a vraiment aimé. Elle peut bien, pour finir sa vie, pour descendre la côte, s'appuyer au bras d'un vieil ami, d'un honnête homme. Mais sois tranquille, cher enfant. T'as tombé dans le cœur de ta mère et elle y tiendra toujours la plus grande place. Tandis que cette fille, oh, tu vois, c'est déjà fini sans regret. Sans doute elle a quelque autre amant. Ah, oh, pauvre mort, ne compte que sur ta mère pour parfumer ton éternel sommeil. Ton Henriette ne viendra plus au cimetière, elle en a oublié le chemin. Cependant, la duchesse de Friedland revient chez Madame Bernard des Vignes et lui dit: Décidément, vous me boudez, ma chère. C'est donc un parti pris? Je voudrais tant vous avoir un de ces mercredis à monter de 5 heures. Le général de Maurice a la bonté de n'y pas manquer et nous fait frémir avec ses histoires de pirates du fleuve rouge. Et la veuve, délivrée de son dernier scrupule, répond avec un léger battement de cœur. Non, il n'y a de ma part, je vous assure, aucun parti pris, madame la duchesse. Comptez sur moi, mercredi prochain. Ah, le radieux jour, la bonne matinée. Sous la splendeur du ciel bleu, le paysage des quais parisiens a l'air tout rajeuni, tout battant neuf. À la station des voitures, dont le soleil fait étinceler les cuirs vernis, l'horloge du kiosque marque midi, et nous sommes le 1er juin. La belle heure et la belle saison. L'Arrée, Seine au flot vert, semble couler aujourd'hui, plus joyeuse et plus rapide. Devant les cases des bouquinistes, les passants s'arrêtent avec une douce chaleur dans les reins. Et sur le pont des Arts, tout émoustillé par les effluves du printemps, un des plus vieux membres de l'Institut se surprend à fredonner un couplet de Désaugiers que lui chantait sous Charles X dans un cabinet du Rocher de Cancale, une grisette en souliers cothurnes et en manches à gigot. Bon rajeuni, vraiment, il fait bon vivre. Dans ce boudoir où pénètre par la fenêtre ouverte l'air pur et la grande lumière, Madame Bernard des Vignes, oui, elle-même, subit l'influence enivrante de la belle journée. C'est après-demain qu'elle se remariera. C'est après-demain qu'elle quittera son deuil. Et sur le divan, dans un carton ouvert, voici le chapeau qu'elle mettra pour la cérémonie. Tout à l'heure, la modiste le lui présentait, posé sur le poing, en disant de sa voix aimable de marchande: Vous voyez, madame, c'est tout à fait ce que vous désiriez, quelque chose de sérieux, rien que cette petite branche de lilas. Et en essayant le chapeau devant sa psyché, Madame Bernard a trouvé qu'il était d'un goût charmant, qui lui allait dans la perfection, et elle a souri. Oui, elle a souri, car elle a réappris à sourire. On l'aime, elle est redevenue femme, elle veut plaire. Le jour où, seule avec Monsieur de Voris, qui la suppliait, elle lui a jeté un regard de consentement, Madame Bernard a vu l'héroïque soldat des campagnes sous Metz et du Tonkin tomber à ses genoux, muet et brisé de bonheur, et pleurer sur ses mains comme un enfant. Aimer encore, le pourra-t-elle? Du moins, elle est sûre d'être bien aimée. Oh, comme elle va se reposer, se détendre dans ce bain de tendresse. Et puis, faire un heureux, c'est encore si doux. Non, Armand n'est pas oublié, il ne le sera jamais. Après-demain, agenouillée auprès de son nouvel époux, Madame Bernard pensera à son fils, priera pour son fils. Et pourtant, pourtant, il est loin l'ancien désespoir. la noire tristesse qui lui avait succédé se dissout et s'évapore en mélancolie. Non, Armand n'est pas oublié, cependant, la blessure se ferme et se cicatrise. Elle souffre moins, l'inconsolable, et tout à l'heure, ah, misérable nature, elle souriait à son chapeau de noces, à ce joli chiffon. Mais un domestique rentre dans le boudoir avec une lettre sur un plateau. Écriture inconnue. Madame Bernard déchire l'enveloppe. 4 pages. Mais de qui peut-être cette longue épître? Elle cherche et trouve la signature Henriette Perrin. Et voici ce qu'elle lit, avec un grand frisson qui lui passe dans tout le corps. Paris, hôpital Necker, 28 mai. Madame, je suis bien malade à l'hôpital Necker et si faible que je ne puis tenir la plume. Une voisine de salle qui entend convalescence est assez bonne pour écrire sous ma dictée et quand je serai morte, seulement quand je serai morte, mais cela ne tardera pas, elle vous fera parvenir cette lettre. Je ne veux pas m'en aller sans vous avoir demandé pardon de la peine que j'ai pu vous faire. J'ai su par Armand combien vous étiez fâché et mécontent de mes relations avec lui. Je reconnais mes torts. Vous m'aviez admise dans votre intérieur, vous aviez été très bonne pour moi, et en devenant l'amie d'Armand, j'ai eu l'air d'abuser de votre confiance. Je comprends que vous m'en vouliez beaucoup et que vous ayez de mauvaises idées sur mon compte. Pourtant, j'espère que vous aurez pitié de moi et que vous me pardonnerez quand vous recevrez cette lettre, car alors je serai morte de chagrin. Les médecins disent que c'est le foie qui est malade. Mais depuis la mort de mon Armand bien-aimé, je sens que je m'en vais, voilà la vérité. Madame, on ne ment pas quand on va mourir. Il faut me croire. Je vous jure qu'Armand était mon premier, mon seul ami. Je l'ai aimé tout de suite comme une pauvre folle que j'étais, comme il est impossible d'aimer plus. Mais je n'ai pas fait la coquette, je vous assure, et je suis encore tout étonné qu'il ait bien voulu, qu'il n'ait pas rougi d'une petite amie aussi ignorante et aussi simple que moi. Soyez indulgente, madame. Songez combien nous étions jeunes, tous les deux. Je savais bien que cela ne durerait pas longtemps, que les jeunes gens de famille doivent se marier avec une personne de leur monde, que tôt ou tard, vous auriez décidé votre fils à me quitter. Mais j'y étais résigné d'avance, et soyez-en sûr, celle qu'un Armand avait un peu aimée ne serait pas devenue une vilaine. Oui, j'aurais su vivre toute seule dans mon coin, avec mon cher et unique souvenir de jeunesse, me consolant par la pensée qu'Armand aurait été heureux, lui au moins, avec une belle jeune femme et de beaux enfants. Mais qu'il soit mort à 20 ans, en quelques jours, sans même que je l'aie embrassé une dernière fois, voilà ce que je n'ai pas pu supporter. Quand j'ai appris cela dans la loge de votre concierge, j'ai reçu le coup qui m'a tué. Depuis ce jour affreux, j'ai comme de la glace autour du cœur. Tout de suite, j'ai commencé à me mal porter, et puis, 2 mois après Armand, ma vieille tante s'en est allée à son tour, et je suis restée toute seule. Je travaillais toujours, il fallait bien, mais comme une machine, et je restais des heures et des jours sans dire un mot, avec mon chagrin qui me rongeait. Ma seule conversation était d'aller le dimanche matin porter les fleurs au tombeau d'Armand. Et à propos de cela, madame, je vous remercie d'avoir laissé mes petits bouquets à côté des vôtres. C'est même ce qui m'a fait espérer que vous ne m'en vouliez un peu moins et que déjà vous me pardonniez presque. Enfin, je suis tombé tout à fait malade. Je ne pouvais plus travailler, j'étais sans ressources et il a fallu aller à l'hôpital. Mais si vous saviez ce que j'ai souffert le premier dimanche que j'ai passé ici, en me disant que vous ne me trouveriez là-bas que mon bouquet fané de la dernière fois, et que vous alliez croire que j'avais oublié mon Armand. C'est aussi pour cela que je vous écris, afin que vous sachiez bien que je meurs avec son nom sur les lèvres. Madame, je me suis confessé hier. La personne à qui je dicte cette lettre a de la religion et m'a demandé de voir un curé. Depuis ma première communion, je n'étais pas retourné à l'église et les prêtres me faisaient un peu peur. Mais celui qui est venu m'a parlé très doucement et m'a dit que mes fautes me seraient pardonnées. Vous serez aussi bonne que lui, n'est-ce pas? Et vous ne m'en voudrez plus d'avoir tant aimé votre fils. Adieu, madame. Si j'osais vous adresser encore une prière, je vous demanderai, quand vous irez à Montparnasse, d'acheter, comme je le faisais, à la porte du cimetière, un petit bouquet de fleurs de la saison, un bouquet de 2 sous, pas plus, et de le mettre sur la tombe d'Armand avec les vôtres. Monsieur l'abbé m'a bien dit qu'on retrouverait au ciel ce qu'on avait aimé. Mais que sait-on? Il me semble que tout de même le pauvre Armand, dans son cercueil, sera content de recevoir le souvenir de sa petite amie. Vous serez tout à fait généreuse, madame, si vous voulez bien vous rappeler et satisfaire le dernier désir de votre très respectueuse et très humble servante, Henriette Perrin. Madame Bernard des Vignes fond en pleurs en achevant la lecture de cette lettre. Comme il a pâli tout à coup le soleil de juin. Comme elle est morne cette journée de printemps. Et là, sur le divan dans ce carton ouvert, le joli chapeau de noces avec sa branche de lilas. Il lui fait mal à voir maintenant, à la mariée de demain. Elle en a honte. Certes, elle a pardonné, elle pardonne encore. Certes, elle accomplira le vœu de la mort. Mais les yeux fixés sur la signature d'Henriette Perrin, sur les 2 seuls mots que la pauvre fille ait pu tracer de sa main de moribonde, la mère d'Armand, d'une voix basse, d'une voix de vaincue, murmure avec un suprême mouvement de rancune et de jalousie. Elle l'aimait mieux que moi. Arcachon, Bordeaux, mars-avril 1889.